Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission de cinéma qui va vous parler des films eh bien, qui sont sortis le 4 novembre et puis aussi des films qui sortent le 11 novembre. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et parmi les films dont on va parler, il y en a un que tu vas chroniquer.
Oui, moi je vais vous parler d'une nouvelle adaptation de Madame Bovary, une adaptation par une metteuse en scène française, mais en anglais.
Et puis, c'est une grosse émission. Enfin, disons qu'il y a très peu de films. Il y a exactement 3 films. On va aussi parler des anarchistes. Et ce sera l'occasion d'écouter le réalisateur qui parle très, très bien de son film, Elie Wajsman. Et puis, on aura aussi eh bien, les 2 acteurs principaux de ce film qui sort ce 11 novembre. C'est Tahar Rahim et puis Adèle Exarchopoulos. Et puis, eh bien, on va commencer cette émission avec un grand monsieur, un grand réalisateur français. C'est Robert Guédiguian, parce que lui, ce 11 novembre, eh bien, il sort une histoire de fou. C'est Cinérama.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Écoutez, Guédiguian, c'est se retrouver très vite à Marseille, surtout quand il parle du cinéma américain et de leur manie de faire des films sur un événement historique qui ne serait pas encore digéré par les historiens.
C'est une idée très répandue. On dit toujours, oh là là, les Américains, toujours les Américains, ils sont plus forts que nous. Dès qu'il se passe quelque chose chez eux, avant même que ça soit fini d'ailleurs, l'affaire n'est pas encore réglée, que déjà les droits sont vendus, ils vont faire un film.
Voilà, on a presque envie de mettre des rires préenregistrés, mais on ne va pas le faire. Alors si pour une histoire de fou, il prend pour point de départ le génocide arménien, on ne sera quand même pas loin de l'Estaque. C'est pourtant à Berlin que tout commence. En 1921, Talat Pacha, homme politique turc, principal responsable du génocide arménien, est exécuté dans la rue par Sogomon Telirian, dont la famille a été entièrement exterminée. Un procès a lieu, il témoigne alors du premier génocide du XXe siècle, racontant le meurtre de sa famille. Ensuite, il y a des historiens qui apportent eh bien, des éléments chiffrés hein, sur l'étendue du massacre perpétré par les Turcs sur les Arméniens vivant sur leur sol, tant et si bien que le jury populaire acquitte ce tueur. C'est déjà une histoire de fou, puisqu'on lui reconnaît le droit de se faire justice lui-même, en gros. Hein. Mais 1921 n'est qu'un flashback. Nous sommes ensuite dans les années 70, quelques générations plus loin, alors que les plus âgés ont oublié le combat pour la libération de l'Arménie. Eh bien, les jeunes Arméniens se lancent dans la lutte armée. Des attentats ont lieu. Les groupes terroristes sont entraînés au Liban par les Palestiniens, qui font beaucoup parler d'eux à cette époque. Et ça, c'est la grande histoire. Et Guédiguian, évidemment, l'évoque. Mais une histoire de fou raconte autre chose. Le récit s'inspire de l'histoire de l'écrivain José Antonio Gurarian, un journaliste espagnol qui a été paralysé après avoir sauté sur une bombe posée par des militants de l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie. Voilà, j'en ai fini. Alors qu'il ne connaît rien de la cause arménienne, eh bien, ce journaliste va tout apprendre et puis chercher à rencontrer celui qui l'a blessé ainsi que sa famille, ce qui est assez étonnant. Mais Guédiguian s'en inspire seulement de cette histoire. Hors de question d'aller en Espagne pour lui. La bombe va sauter à Paris. Et celui qui l'a fait sauter, eh bien, il vit où ? À Marseille, bien évidemment. C'est une question d'habitude. Mais comme son homologue espagnol, eh bien, ici, un jeune étudiant en médecine va aller à la rencontre de la communauté arménienne, y voir les pacifistes, les extrémistes, et puis aussi, il faut en parler, les indifférents. Ainsi, Guédiguian organise un récit moins historique qu'il n'y paraît, ne voulant pas seulement faire un film sur la question du génocide, mais davantage un questionnement sur la lutte. On écoute le réalisateur de l'Estaque, nous l'avons rencontré il y a peu.
Nous sommes de purs révolutionnaires, solitaires, indépendants, orgueilleux et fiers. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte ni épuiser notre volonté.
Il n'y a pas de mauvais sujet, il n'y a que de mauvais traitements, quoi. Voilà, il n'y a que de... Mais bon, donc évidemment, on peut faire un film qui se passe entièrement en 1915 dans un village d'Anatolie. Mais moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Voilà. Ce qui m'intéresse 100 ans après, c'est effectivement plutôt comment la mémoire, en fait, a été la seule chose qu'avaient les vaincus, comme d'habitude d'ailleurs. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, comme on dit. Hein. Et que comment cette mémoire a été donc refoulée de manière indispensable pour pouvoir survivre pendant effectivement une ou deux générations. Et comment, comme toute chose refoulée, elle a explosé, au sens propre d'ailleurs. Elle a explosé effectivement dans les années 80 sur la 2e ou 3e génération qui a dit bon, ça suffit.
Vous père se venger comme Telirian.
Et au moins, ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres fossoyeurs.
La manière dont j'évite de filmer le génocide, c'est de le raconter à travers le procès. Fallait aller loin, parce que comme il n'est toujours pas reconnu, ce putain de génocide, fallait quand même dire aux gens qui voient le film que c'est vrai qu'il y a eu un génocide, mais c'est terrible, quoi, que c'est le premier génocide du siècle. Et à travers, et la parole de Tédirian qui raconte sa propre famille, comment elle a été exterminée, et la parole des avocats, qui développe, bien sûr, qui généralise, et l'historien qui témoigne. Donc on a une espèce d'exposé, aussi court qu'on puisse le faire, aussi complet qu'on puisse le faire, en aussi peu de temps, de ce qu'a été la réalité de cette histoire. Et le noir et blanc me permet en plus, d'abord, du style de faire une demi-heure de ce que l'on appelle un film de procès. Et il y en a eu beaucoup dans l'histoire du cinéma. C'est presque un genre. Ça me permet aussi, si je puis dire, de faire un faux documentaire, c'est-à-dire de fabriquer une archive. Il n'y a pas d'archive sur le procès, je crois qu'il y a deux photos. En plus de ça, ça me permettait quand même de poser d'emblée les questions du film.
Soyons les héritiers de Tédirian et finissons son œuvre de justice. Justice pour le peuple arménien.
L'autre idée conductrice du film, c'est ce personnage qui est innocent. Et il y aura d'ailleurs de cette affaire-là, donc il va même pourrier. C'est la manière de donner tous, d'ailleurs, je crois, hein, il peut tous nous arriver quelque chose demain où on est l'objet de l'histoire et pas le sujet. Gilles, d'ailleurs, à ce moment-là, le personnage, comme un peu l'a fait Gouriaran, d'une autre manière, parce que je me suis librement inspiré de lui, mais d'objet décide de devenir sujet.
J'ai toujours dit que j'étais arménien, mais je n'ai jamais trahi personne.
Je te respecte pour ça.
Et pour le reste, tu me méprises.
J'ai raison de penser qu'il s'agit de terroristes arméniens.
A Ramel, il y a cet attentat.
Il est parti rejoindre la lutte armée. À Beyrouth.
Les attentats, si tu veux, dans les années 75 et 85, en même temps, c'est énorme. C'est le groupe qui a fait le plus d'attentats. 150 à peu près. Et en fait, mais je crois que dans notre mémoire, on assimile ça. Et c'est pas faux. Je comprends que c'était très lié aux Palestiniens. Hein. On mélange avec les attentats palestiniens.
Je suis arménienne. Je voulais vous demander pardon.
Je me fous du peuple arménien.
C'est peut-être mon fils qui vous a fait ça.
T'as déjà blessé ou tué quelqu'un d'innocent?
Tu dois arrêter d'y penser.
Les vrais hommes pensent.
La plupart des Arméniens sont contre la violence.
La plupart sont votre fils. Qu'est-ce qu'il veut, Gilles Tessier?
Il veut parler à Aram. Fais ça pour moi.
C'est de la folie.
J'avais fait une source de curiosité et de réflexion. Mais évidemment, pour toujours que ça devienne quelque chose d'universel, qui me dépasse, évidemment, et qui ne soit surtout pas... C'est bien pour ça que j'appelle le film une histoire de fou, il n'y a pas arménien dans le titre, et que je pense que le film parle d'un traumatisme initial et de conséquences sur plusieurs générations. Voilà, c'est le sujet du film.
Il y a des pages qu'on ne tourne jamais. Si Gilles veut voir son bourreau en face, je le comprends. Et son bourreau, c'est mon fils, figurez-vous.
Voilà, c'était Robert Guédiguian dans l'émission Cinérama pour Une histoire de fou, film qui sort le 11 novembre. Juste pour dire que ce film est un poil long quand même. Le prologue est très très réussi, hein. Ce premier procès était suffisamment bon. Mais après, alors ça c'est l'idée qu'a Guédiguian du cinéma, c'est-à-dire qu'il aime bien qu'on... Eh bien, prendre le temps de nous montrer les personnages, qu'on s'y attache, qu'on s'y intéresse. Voilà, c'est ça un peu le problème d'ailleurs dans ce film, parce que ça traîne un peu, mais sinon, eh bien, je vous le recommande. Et surtout, si vous avez complètement oublié ce que peut être le génocide arménien, on va passer à toute autre chose avec toi, Marine, avant de retrouver encore une histoire politique avec les anarchistes. On va parler de Madame Bovary, les sentiments.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Sophie Barthès, réalisatrice française qui tente souvent en anglais, mais ici en scène, une énième mais honorable version de Madame Bovary. L'histoire, vous la connaissez déjà sûrement, mais je vais laisser Jean Rochefort vous la raconter.
C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs à pic au fond de l'Orbonne. Il plane à 10 000 et tu sens le malaise en lui. Son blaze, c'est Charles Bovary. Il rencontre une petite zouze campagnarde... Pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma. C'est elle, le héros. C'est Madame Bovary.
Voilà, Madame Bovary, donc, c'est d'après Gustave Flaubert lui-même, un livre sur rien, mais à la forme très travaillée, inspiré d'un fait divers qui semblait visiblement banal à cette époque, à savoir une jeune femme mariée à un médecin de campagne qui s'ennuie et qui, à force d'amants et de dettes accumulées, finit par ruiner sa propre famille et se suicider en avalant du poison. Porté 25 fois à l'écran par entre autres Renoir, Minelli ou encore Chabrol, c'est-à-dire la portée intemporelle de l'histoire, Madame Bovary peut-elle encore en 2015 être réinventée ? Alors le parti pris de départ est certes critiquable, adapter en anglais un roman français comporte son lot d'incohérences. On voit ainsi Olivier Gourmet, qui joue le père de Emma Bovary, parler en anglais avec un fort accent belge, ou encore les comédiens américains utiliser des mots français tels que « santé » ou « rendez-vous » entre deux phrases dans la langue de Shakespeare. Le casting également s'avère quelque peu bancal. Si le choix de Mia Wasikowska est intéressant dans le rôle d'Emma Bovary, les comédiens masculins sont eux trop hollywoodiens. On retrouve ainsi Ezra Miller et Logan Marshall Green, respectivement beaucoup trop jeunes et beaucoup trop surfaits pour être crédibles en amont de l'héroïne. Mais le film pêche surtout par sa trop grande sobriété, son manque de souffle romanesque empêchant le spectateur de ressentir une quelconque empathie pour le personnage de Emma. La musique, la lumière et le montage parviennent si efficacement à signifier la monotonie et la routine que c'est finalement tout le film qui en devient trop banal et trop ennuyeux. On pourrait également reprocher à la réalisatrice d'avoir épuré l'intrigue pour la rendre le plus lisible possible. Néanmoins, cette vulgarisation reste cohérente et parvient à maintenir intact l'essence du roman. Malgré cette mise en scène un peu trop sobre, qui ne restera donc pas dans les annales, le film n'échoue pas pour autant, puisqu'il se double d'une portée féministe bien plus présente que dans l'œuvre de Flaubert. Si le livre présentait la jeune femme adultère comme une demoiselle frivole qui entraînait son mari dans sa chute et payait le prix fort pour avoir rêvé d'une vie de futilité, cette relecture 2015 la rend davantage moderne. Dans cette nouvelle version, Emma devient une victime de la société patriarcale qui lui a vendu des rêves de prince charmant. Une jeune femme qui, sortie de son couvent pour être piégée dans un mariage forcé et ennuyeux, devient la victime du consumérisme pour échapper à son quotidien. Une vision qui rapproche ce Madame Bovary de la version de 91 réalisée par Claude Chabrol, avec une Isabelle Huppert passionnée qui refusait les conventions que lui imposait sa classe sociale. Une réflexion sur la transgression de classe qui demeure le point le plus intéressant de cette nouvelle adaptation. Une nouvelle adaptation pas nécessaire, certes, mais suffisamment élégante pour ne pas être un échec.
Ouais, peut-être pour le public anglais, pour le coup.
Et pour un public plus jeune, je pense, parce que ça rend voilà, tout ça accessible. Donc c'est bien voilà, pour des gens un peu plus jeunes qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont pas envie forcément de lire le livre. Et ça rend le tout très, très lisible, en fait.
Merci Marine. On passe au gros morceau maintenant de cette émission Cinérama, avec une triple interview. Le réalisateur, c'est Ali Vajman, et puis les deux comédiens, c'est Tahar Rahim, et puis Adèle Exarchopoulos.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Et nous allons parler du film Les Anarchistes, qui sort ce 11 novembre. Alors faire un film avec un tel titre, dans une période où la politisation, le syndicalisme semble au plus bas, est probablement un risque. En donnant ce titre si générique à son film, Ali Vajman nous induit quelque peu en erreur. On s'attend à ce que le film réponde à la question et le réalisateur ne nous plonge pas aux côtés de Julien Coupa, hein, souvenez-vous, le groupe de Tarnac. Il ne nous plonge pas donc à notre époque, mais peu avant 1900, dans un Paris parfaitement reconstitué. Alors c'est d'abord ce qui frappe, la reconstitution. Pour présenter le mouvement anarchiste, Vajman s'intéresse à un petit groupe de 5 personnes, puis y place un flic désargenté et orphelin, Jean Albertini, interprété par Tahar Rahim. Alors en termes de cinéma, un infiltré, ça n'est pas nouveau et c'est parfait en fait pour observer ce petit monde, d'autant qu'on est davantage habitué au FBI et à la CIA et pas forcément au flic qui n'a pas le sou. Voilà donc Tahar Rahim qui va devoir jouer la comédie et il va plutôt bien s'en sortir. Il n'y a qu'un des membres qui lui dit franchement que sa tête ne lui revient pas, mis à part ça, l'infiltration suit son chemin. Mais Jean, qui n'est pas politisé, eh bien, va commencer à s'intéresser à la cause, d'autant plus qu'il y a un amour possible avec l'un des membres du groupe, une certaine Judith, interprétée par Adèle Exarchopoulos. Et entre là, dans le cœur du film, eh bien, les anarchistes, avec un groupe d'hommes qui mélangent sentiments, romantisme, on va dire, et engagement politique. C'est précisément ce qui intéressait le réalisateur Ali Vajman, qu'on va écouter avant bien d'entendre ses acteurs.
Suivez-moi.
J'aimerais que vous travailliez pour moi.
Quel travail ?
Intégrer un groupe d'anarchistes et me renseigner sur eux.
J'avais envie depuis longtemps de faire un film sur quelqu'un qui rentre en politique de manière un peu incongrue et qui rencontre une idéologie mais de manière étrange. Et donc j'ai eu l'idée d'un policier qui infiltre ce groupe et qui allait pouvoir embrasser l'idéologie anarchiste sans l'être vraiment, quoi. comment on pouvait être et pas être à la fois et suivre les principes de ce mouvement anarchiste et rentrer en politique de manière étrange.
Pourquoi moi? Disons que vous avez la tête de l'emploi. Vous inspirez confiance.
J'ai l'espoir d'une organisation sociale dans laquelle personne ne contrôle personne et où chacun se contrôle soi-même.
J'ai choisi les anarchistes parce qu'il me semblait que c'était leurs sentiments et leurs actions politiques se mélangeaient. Et je trouvais ça très beau et j'ai l'impression que c'était les gens les plus pleins à cette époque-là. Des gens pleins et de sentiments et d'aspirations politiques. Donc c'est dans ce sens-là où c'était important, intéressant pour moi de me confronter à un personnage vide idéologiquement, le policier, qui allait rencontrer ces gens aussi pleins. Voilà. Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le mouvement anarchiste. L'autre, c'est que le mot me semblait romanesque depuis mon adolescence. Tout le temps, ce mot, j'imaginais des grands récits. Puis voilà, puis il y avait quelque chose de russe. Enfin, je pensais à Bakounine, à Koprotkine. Et donc, j'avais envie de faire aussi une sorte de film où il y a une sorte de fièvre russe, même dans son côté un peu romantique. De romantique noir, romantisme noir que j'associais à ce mot d'anarchie.
Je me suis fait tabasser. Grâce à cet homme, je suis là. Je compte bien lui servir à boire. Maintenant que vous les tenez, ne les lâchez plus. Hein. Je veux tout savoir.
Vous vivez tous ici?
Oui.
Si vous voulez leur plaire, il faut leur ressembler, sinon ils verront que vous trichez.
C'est un parti pris, et en même temps, dans certains textes, donc, on peut déceler un romantisme et même un rapport, par exemple, à la poésie, à Baudelaire ou à Rimbaud, qu'on pourrait qualifier parfois de romantique. Certains des poèmes, d'ailleurs, il y a un poème de Rimbaud, et ils étaient des grands lecteurs de poètes romantiques. Donc, quand même, c'est pas non plus moi qui plaque quelque chose de faux sur les anarchistes qui m'intéressent le plus, qui sont des anarchistes individualistes. Et il y a un texte que Tard lit, qui est censé être un texte de Élisée, le leader anarchiste, où il dit « je me suicide parce que je vois pas la lumière, je me suicide parce que je mange pas à ma faim ». Et donc là, on voit bien comment une sorte de romantisme noir est mélangé à des aspirations politiques et à un dégoût de la vie qu'on propose au prolétariat, quoi, aux prolétaires. Donc voilà, dans son stage, j'avais le sentiment que c'était juste. Et après, c'était ma vision aussi des choses. C'est une fiction romanesque. Et donc c'était aussi comme ça que j'envisageais le film. Et avec l'idée que l'amour était au centre, la question d'être à deux, de s'aimer, et elle allait être au centre du film. Aussi comment l'amour allait se mélanger justement aux politiques, et comment peut-être la dernière partie du film, où la question de la bombe se pose, est exactement au même moment où l'amour entre les personnages devient le plus resserré, le plus compliqué. Et surtout, c'est une sorte de trio amoureux quand même, avec le leader anarchiste, le policier, et l'anarchiste joué par Adèle. Donc voilà, j'ai essayé d'imbriquer la question de l'amour et celui de l'explosion, dans tous les sens du terme. Il faut que ça explose, quoi.
Qu'est-ce que tu fais là, Alain? Qu'est-ce que tu cherches?
Je me demande pourquoi ta tête me revient pas.
Laisse tomber, c'est un jaloux. Il supporte pas qu'Élise était à la bonne.
Le bonheur, c'est quoi? C'est de s'embrasser, c'est de penser. C'est de vivre, le bonheur, d'être libre.
Qui en est?
J'ai fait une chose très simple, qui est que j'ai tourné en décor naturel. J'ai tourné dans des vrais appartements, des vraies cages d'escalier qui dataient de l'époque anarchiste, avec cette idée aussi qui me touchait, qui était que j'allais pouvoir raconter... j'avais envie de filmer des escaliers où je me disais, là, il y a eu des mecs, effectivement, à Paris maintenant, mais en fait, il y a un siècle et quelques, il y avait des gens qui marchaient dans cet escalier. Peut-être qu'il y avait un anarchiste à cet étage-là. En lisant les textes anarchistes et en rencontrant certaines figures anarchistes, je me suis rendu compte qu'ils étaient dans des petits appartements. C'était pas qu'un grand mouvement révolutionnaire, mais que c'était aussi des intimités dans des endroits de Paris qui réfléchissaient par petits groupes, des fois, ou tout seul aussi. Et donc c'était ces gens-là qui m'intéressaient. C'est aussi pour ça que j'appelle les anarchistes, parce que peut-être que ça parle pas de grand ensemble anarchiste, mais ça parlait aussi de singularités qui, dans leur coin, se sentaient anarchistes. Pour plein de raisons différentes.
Les gens disent que les anarchistes sont des fous, c'est vrai. Cette folie est engendrée par le système.
Faut toujours tomber amoureux, c'est le seul truc qui vaut la peine d'être vécu. T'as déjà été amoureux, toi?
J'arrête, moi, c'est terminé.
c'est pas un film politique, mais j'ai l'impression que c'est un film romanesque, mais j'ai l'impression que c'était par là que moi j'allais pouvoir trouver aussi une vérité, faire entendre quand même des phrases. C'est-à-dire qu'on a quand même cherché avec les acteurs, la scénariste et moi, à être au plus juste aussi de certaines idéologies et de montrer leur modernité sans que ce soit un grand geste politique, mon film. Mais ok, par touche, je voulais qu'on entende. On entend précisément des textes anarchistes. Et tout le discours d'Adèle au début du film, c'est un discours d'une femme qui s'appelle Voltairine de Clercq, qui est une américaine, totalement anarchiste et totalement moderne. Donc, le film, en tout cas, était, je crois, est au fait de ça, de la modernité de certains propos, sans que ça soit un grand film politique.
Mais c'est beaucoup trop tard pour arrêter. Vous arrêtez, vous ne serez plus anarchiste, plus rien du tout.
Si jamais ça tourne mal pour moi, je veux que tu t'occupes de Judith.
Voilà, c'était Elie Wajsman, donc le réalisateur de Les Anarchistes. Alors, c'est pas forcément facile de jouer un infiltré, c'est jouer la comédie à l'intérieur d'un dispositif qui est déjà de la comédie. On est donc dans une fiction. Et c'est ce qu'il a soufflé un peu à Tahar Rahim quand on lui a demandé, eh bien, finalement, comment il avait préparé ce personnage d'infiltré.
On essayait de creuser de plus en plus dans le personnage et de raconter plus qui il était, d'où il venait, pour que ça puisse vraiment retentir et qu'on puisse s'y attacher et comprendre ses choix. Après, le reste, précisément, c'est un truc, c'est... J'ai du mal à répondre parce que, particulièrement pour ce film-là, on s'est rencontrés tellement en amont du tournage que les discussions, la préparation s'est faite tellement dans le temps que j'ai pas eu le sentiment d'avoir... J'ai pas le sentiment d'avoir démarré une prépa précisément à un moment donné, puis boum, démarrer le tournage, comme ça peut se faire habituellement. Ça s'est fait vraiment tranquillement, ça s'est installé dans le temps et du coup, je me rends plus compte des difficultés que j'ai pu avoir.
Puis il y avait quelque chose d'écrit un peu pour. Il y avait quand même quelque chose d'écrit un peu pour toi.
Ouais.
Enfin, en tout cas, au fur et à mesure, on s'est rencontrés tellement en amont que le personnage est quand même devenu assez proche, pas de tard, mais en tout cas, il pouvait s'y glisser facilement. Puis d'autre part, la question du policier infiltré, c'est aussi c'est quelqu'un qui va jouer la comédie. Donc ça pose quand même des questions d'acteur. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a intéressé de prendre un policier infiltré. Voilà, c'était comment jouer la comédie. Ça, c'était notre question. Est-ce que tu vas jouer que tu joues pour que le spectateur sache que
tu
es conscient. Voilà, est-ce que tu vas jouer le sentiment vrai, simple, au présent. Et c'est ce qui est très troublant. Pardon, parler pour toi, Tahar, mais enfin, je crois que ce qui est très beau, en tout cas, dans ce que fait Tahar, c'est que ça se voit pas, quoi. C'est qu'on a l'impression qu'il est tout le temps au présent avec eux dans le vrai sentiment. Et de fait, c'est vrai. Et il l'est. Et il est sincère.
Ce qu'il disait est très pertinent parce que cette mise en abîme, jouer la comédie dans la comédie, il y a toujours le risque d'en faire trop. Parce qu'à un moment donné, on se dit à quel endroit je vais donner suffisamment pour que le spectateur le ressente, mais pas mon partenaire si on veut rester dans quelque chose de... Pas le personnage qui est en face de moi. Et c'est là où il y avait une espèce de... C'était du papier à musique, il fallait être très fin. Et c'est pour ça que le gros plan aide beaucoup à ce moment-là. C'est là où il faut être fin.
Alors effectivement, il y a des gros plans dans ce film, mais pas seulement, évidemment, mais il insiste énormément sur Tahar Rahim, le réalisateur, mais également sur Adèle Exarchopoulos, qui a préparé son rôle, évidemment. Elle incarne un personnage assez différent de ceux qu'elle a pu interpréter. On se souvient forcément bien de son premier rôle, celui de Adèle. Dans...
Son second, en fait.
Ah, c'était son second.
Oui, elle avait déjà joué dans un autre film et qui n'était pas vraiment notable avant.
Voilà, c'est ça. On l'écoute.
C'est pour ça que j'ai choisi ce film, pour essayer de me prouver à moi-même est-ce que j'étais capable de sortir de ma zone de confort où on me laissait mon phrasé à moi, etc. Donc fallait travailler un peu sur la respiration, l'élocution. Même s'il y a une forme de modernité dans notre phrasé et qu'on n'a pas essayé de coller mot pour mot, parce que c'est un film tellement générationnel et de bande, qu'en même temps, si on était allé dans quelque chose de trop poussé au niveau du langage, je pense que... Enfin, moi, j'y crois rarement, donc on a essayé de trouver un équilibre. Après, c'est par... Tu te nourris de la documentation, de la lecture, la littérature de l'époque, le contexte historique, politique. Et puis, les costumes, pour le coup, ça m'a vraiment aidé. Parce qu'un corset, ça change quand même toute ta manière de tenir, de respirer. Et ton caractère, je pense que ça souligne des points de ton caractère. En tout cas, moi, l'impatience ou la nervosité, etc., ça t'amène une tenue. Donc, c'est plein de choses différentes qui m'ont aidé. Et puis après, sur le moment du plateau, c'est vraiment les gens avec qui tu joues qui font quel acteur tu es. Enfin, en tout cas pour moi.
Alors voilà, moi je la trouve pas forcément très convaincante, mais j'ai l'impression que le rôle n'est pas forcément très bien écrit et que dans le film, on voit surtout Tahar Rahim et que c'est lui qui est prédominant. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, puisqu'on a vu tous les deux le film.
Oui, c'est vrai. Oui, elle se voit que bon, elle est juste là, mais c'est vraiment un rôle qui est secondaire. Elle n'a pas grand-chose à jouer au final.
Même si elle doit jouer forcément le charme, puisqu'elle doit attirer Tahar Rahim vers le sentiment amoureux. Plus que vers l'engagement, parce que elle, ce qu'elle cherche à faire, alors ce qui est très intéressant aussi dans ce film, hein, c'est qu'on voit bien les prémices d'un mouvement qui pourrait être féministe, voilà, avec ces anarchistes. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui est aussi important dans ce film, c'est tout le contexte historique de ce mouvement. On va écouter, alors là, il y a trois musiques, en fait, hein, dans ce film, mais trois musiques, en fait, qui sont prises bien dans notre époque. On écoute Adèle, qui a voulu en parler.
Moi, je trouve ça extrêmement intelligent de mettre du reggae à l'intérieur de ce film. Et pourtant, il est proche de nos visages, il est dans quelque chose d'assez pudique, de poétique, d'intime, etc. Et le reggae, ça a une forme de contestataire. Donc moi, je trouve ça hyper intelligent.
Voilà, je trouvais ça intelligent. Et c'est tant mieux. Ensuite, donc, il n'y a pas seulement ce reggae, il y a aussi un morceau à l'intérieur de ce film. C'est le morceau de Kinks. Et le réalisateur y tenait énormément.
Imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I look around me and feel you are ever so close to me. Each tear that falls from my eyes brings back memories of you to me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me. I'm strong, I'm proud, I'll love you till the day I die. You alone and no one else. You were meant for me.
The Kinks, donc, c'est un des éléments sonores du film Les Anarchistes. Hein, film Les Anarchistes avec un groupe de 5 personnes qui s'est constitué. Alors, c'était avant 1900. Oui, c'est ça. Et donc avec de la musique très contemporaine. Alors Marine, tu l'as vu ce film et toi tu l'as trouvé mou du genou, disais-tu.
Oui, un peu trop plat, voilà, c'est quand même un petit peu dommage. Je trouve que c'est pas si libre au final, c'est assez conventionnel, un peu convenu, un peu plat et presque ennuyeux. Donc bon bah voilà, pour un film qui est quand même censé traiter de ce sujet, c'est un peu dommage. Un petit peu paradoxal finalement. Ouais. Voilà.
Alors moi, je n'ai pas le même avis. Effectivement, je trouve que c'est peut-être un peu poussif par moment, mais je trouve que ça éclaire en tout cas un mouvement qui est pas forcément mis en avant au cinéma. Et ça, c'est déjà intéressant. Après, le rôle que peuvent avoir les femmes dans ce film, enfin, là aussi, je trouve ça assez intéressant, vu l'époque à laquelle on vit. Et puis, voilà, ça donne un éclairage aussi sur des mouvements contemporains. Je parlais de Julien Coupa tout à l'heure, cette affaire de Tarnac dont il a été question. Bon, ben finalement, qu'est-ce que sont les anarchistes, les autonomistes, et ainsi de suite ? Eh bien, on peut avoir la réponse en regardant ce film de Elie Wajsman, donc, qui sort le 11 novembre. Alors, à noter aussi l'extraordinaire performance de Guillaume Gouix, qui joue un des anarchistes. Justement, c'est lui qui dit à Tahar Rahim que sa gueule bien lui revient pas du tout. Et je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très fort, cet acteur. Voilà, ça fait partie des acteurs, de toute façon...
À suivre.
Voilà, à suivre. Et c'est ce que disait Le réalisateur, il a cherché à faire un casting avec, avec des acteurs qui montent.
Oui.
On va terminer en écoutant Adèle. Adèle, d'habitude, je suis avec une perche quand forcément on fait les interviews avec Marine. Et les gens peuvent se demander, les acteurs se disent « Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette perche ?» Eh bien là, pour une fois, eh bien, on m'a dit quelque chose d'intéressant.
Heureusement que vous êtes là.
Voilà. C'était Adèle Exarchopoulos qui m'a remercié d'être là. Allez, c'est fini.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, nous serons au complet, au moins dans les kicks, on a sans doute vu Le Spectre.
Oui.
Le James Bond, Hunger Games peut-être, Crazy Amy, voilà. C'est
et
un
oui,
peu tout ça.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.